Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Bonjour à toutes et à tous. Michel Serres, qui est né en 1930, notre grand philosophe occitan et grand savant, membre de l'Académie française, fier d'être né à Agen, il vient de mourir le 1er juin de cette année. Il écrivait, en mentionnant Alexandre Kojève, un autre grand philosophe et savant, cette phrase étonnante: la science moderne ne pouvait naître que dans une culture où il y avait l'incarnation. Fin de citation. Et pourtant, Michel Serres et Alexandre Kojève ne sont pas vraiment chrétiens. Cette conception mathématique d'un monde invisible qui fonde le monde visible est facile à comprendre. Par exemple, il existe des triangles en bois, en fer, en verre, en plastique, en tout ce que vous voudrez, mais aucun n'est absolument parfait, aucun n'est éternel. L'idée mathématique de triangle, elle, est parfaite, absolue, éternelle. On peut dire que de tout temps, et même avant le début des temps et après la fin des temps, la somme des angles de tous les triangles est éternellement égale à deux angles droits. Et les triangles matériels ne sont des triangles qu'en obéissant aux lois mathématiques universelles immatérielles. La science n'est donc pas matérialiste. Ce n'est pas notre cerveau qui investit l'idée de triangle, elle existe depuis toujours et pour toujours et n'a pas à être pensée par un homme en particulier. Les théorèmes et les lois sont immatériels et ils régissent le monde matériel. Quand je vois une tuile qui tombe, je vois une chute qui s'accélère. Mais pourquoi la tuile tombe ? Par la loi universelle de Newton du XVIIIe siècle. Alors, c'est très curieux, mais ne nous affolons pas, c'est très simple. X égale 1/2 de GT2. X, c'est la distance de la chute des corps, en mètres donc. 1/2, c'est un rapport abstrait, la moitié. G, accélération de la pesanteur. Oh là, c'est de plus en plus abstrait. Le temps, il n'est peut-être pas si abstrait que ça. Mais alors le temps au carré, on ne sait pas ce que c'est. Dans cette équation, dont tout est abstrait, invisible, intangible, c'est une idée immatérielle, éternelle, qui existe depuis toujours, bien avant Newton, et qui structure le monde. Aujourd'hui, que peuvent nous dire les scientifiques ? Le 24 janvier 1936, Albert Einstein, qui est mort en 1955, dit la même chose. Je cite : « Cette croyance en l'existence de lois fondamentales régissant la nature, repose sur une manière de foi. Il n'en reste pas moins que cette foi est largement justifié par les succès de la recherche scientifique. D'autre part, et c'est toujours Einstein qui parle, tout individu réellement passionné par l'évolution de la science est convaincu de la présence d'un esprit derrière les lois de l'univers. » Fin de citation. À nouveau, on le voit, l'immatériel précède la matière et la matière provient de l'idée invisible. Des savants reconnus comme Roger Penrose, un Anglais, ou même d'autres, des francophones comme Roland Ness ou Alain Kohn's, défendent scientifiquement cette primauté des idées réelles, mais immatérielles, qui fondent le monde. D'autre part, il y a de nombreux chercheurs chrétiens. Pour rester dans l'actualité, je citerai Thierry Magnin, ancien vice-recteur de la Cato de Toulouse, ancien recteur de la Cato de Lyon et depuis très peu secrétaire général de la Conférence des évêques de France, et qui a été en même temps que prêtre, directeur de recherche au CNRS en physique. Mais même des non-chrétiens, beaucoup de chercheurs, pensent qu'une information, c'est le mot qu'on emploie au sens contemporain des logiciels d'informatique, a préexisté à la naissance de l'univers. Une information immatérielle qui commande le cosmos. C'est le cas des un peu trop médiatiques frères Bogdanov, dont l'un des livres s'appelle « Visage de Dieu » pour parler de l'origine du monde, préfacé d'ailleurs, pour certains livres, ils en ont écrit beaucoup, par des prix Nobel. Ces mathématiques immatérielles, éternelles, qui organisent le monde, sont-elles le Dieu chrétien? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, comme le dirait Pascal, notre grand savant du XVIIe. Le logos grec, ça signifie logos à la fois langage et science, le logos grec, la structure cohérente des idées qui expliquent et régit le monde. C'est un langage qui dit les lois du cosmos, mais c'est un logos impersonnel. Einstein croit en un Dieu tout-puissant et très savant, mais qui ne s'intéresse pas du tout à la vie des hommes. Ce logos immatériel nous permet de répondre à comment fonctionne le monde, mais pas au pourquoi le monde existe. Il ne donne pas un sens humain, il ressort d'une spiritualité de la raison, mais pas d'une spiritualité de l'amour qui donne du sens. Alors il nous faut revenir au point de départ. Michel Serres, Alexandre Kojève, nous disait que la science moderne ne peut se concevoir qu'à partir du modèle de l'incarnation du Christ. Poursuivons la logique de ce modèle. Le logos scientifique n'est qu'une langue morte, à côté de la parole vivante de la personne du Christ. Et la Bible fait bien le lien entre le logos scientifique, fondateur du monde, et cette parole vivante qu'est le Christ. Car la Bible, dès la Genèse, le premier livre donc, montre que c'est la parole de Dieu qui est créatrice, la parole qui est créatrice. Puis que ce verbe, qui est presque synonyme de parole, de langage, que ce verbe créateur est la deuxième personne de la Trinité et que cette deuxième personne est le Christ. L'évangile de Saint Jean commence ainsi, au commencement était le verbe, donc j'ai déjà dit que le verbe signifiait tout aussi bien parole, logos, et le Verbe s'est fait chair, continue Saint Jean. Mais il ne s'est pas incarné pour rien. La parole vivante est amour, dit encore Saint Jean. Elle exprime le don de soi, le bonheur du don de soi, et l'acte créateur, d'une part, et l'amour, d'autre part. Et je ne sais pas pourquoi je dis d'une part et d'autre part, parce que justement, ils sont tous les deux dons de soi. L'Évangile est ce qui convient le mieux, finalement, à la science moderne en particulier et à l'homme en général.